Faire un peu comme Joël, je vais commencer par une petite histoire, mais pas pour les enfants. Alors, désolé, hein, mais ils sont partis. Que penseriez-vous d'un homme qui prend rendez-vous, par exemple, chez un diététicien? Je parle pas de moi du tout. Aucun problème de surpoids. Non. Mais quelqu'un qui, ayant des problèmes, j'ai vu le regard de ma femme. Quelqu'un qui, par exemple, ayant des problèmes à ce sujet, des problèmes de poids, prend rendez-vous chez un diététicien qui lui donne de nombreux conseils, il faut éviter tel aliment, si vous mangez ça, il faut manger ça avec, etc. Et qui, pendant un mois, du coup, va manger pizza, hamburger, kebab et compagnie, soda à volonté, va se faire plaisir dans tous les sens. Et un mois après, va retourner chez ce même médecin en disant « Mais j'ai pris rendez-vous avec vous, je vous ai payé, je vous ai fait confiance, j'ai pris du poids ce mois-ci. Êtes-vous un bon médecin ?» Alors, ça peut faire sourire. Que penserions-nous d'un tel homme ? Mais si on se remet dans un contexte un peu plus biblique, est-ce que on n'était pas dans une situation où on allait mal? On avait un problème irrésoluble, n'est-ce pas? Ce problème, c'est le péché. Et on s'est tourné vers Dieu à un moment, qui nous a prodigué de tas de conseils. Si vous lisez la Bible est riche en conseils, en enseignements. Il n'y a pas que la Bible aussi, il y a sa parole, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui l'a placé en nous. Il y a aussi nos frères et sœurs aussi qui, que ce soit à l'église ou que ce soit dans les discussions, viennent nous apporter aussi de précieux conseils qui leur viennent aussi de la part de Dieu. Et quand ça ne marche pas, que faisons-nous? Le titre de ce message, qui a changé de nombreuses fois au cours de sa rédaction, c'est « Ce n'est pas ma faute ». N'est-ce pas? C'est un réflexe tellement humain. Déjà, chez les jeunes enfants, je le vois chez ma fille. Ah, mais non, mais j'ai pas fait exprès, mais non, c'est pas, mais j'ai oublié. Et on cherche de nombreuses excuses, et on pourrait dire, ouais, les enfants. Ben non, regardons-nous. Moi, le premier, je pense, dans notre maison, je vais être le premier à trouver de tellement bonnes excuses pour ne pas avoir fait ci ou ça. Ah oui, la vaisselle est pas faite, mais, attention, moi j'ai fait ça, etc. N'est-ce pas? Oui, ma femme acquiesce. Et face à Dieu, est-ce que ce n'est pas la même chose? N'est-ce pas? Alors oui, cette semaine, je t'ai un peu moins prié, peut-être que j'ai un peu moins lu la Bible, ok, d'accord, j'ai un peu menti au travail, mais je t'ai fait une belle offrande le dimanche, donc bon, n'est-ce pas? Mais là, dans la petite histoire que je racontais, on est au-delà de quelqu'un qui se cherche des excuses, on est sur quelqu'un qui accuse. Est-ce qu'on n'accuse pas Dieu, par moment, de nos propres fautes? Directement ou indirectement? J'en veux pour preuve ce discours qu'on a souvent dans le monde quand on évangélise un peu. Si Dieu existe, pourquoi? Pourquoi le Covid? Pourquoi la guerre en Ukraine? Pourquoi, etc. Si Dieu existe, et s'il existe, et qu'il est tout-puissant, ben il fait quoi? De la même façon qu'un médecin qui vous donne des conseils, ben ce médecin vous fait confiance et vous laisse votre libre arbitre. Il va pas vous faire interner, contrôler 24 heures sur 24, avec une camisole qui vous interdit d'attraper la moindre chose par vous-même, de façon à ce que vous suiviez scrupuleusement le régime qui a été prescrit. Non. Il vous a dit ce qu'il fallait faire. Mais après, la responsabilité à qui est-elle? J'ai pas de passage biblique central pour ce matin, mais je vais citer de nombreux versets que je vous inviterai à suivre ou à reprendre aussi chez vous. Mais on a ça dès le début de la Bible, n'est-ce pas? Quand Dieu arrive dans le jardin d'Éden, et que l'homme et la femme ont goûté du fruit défendu, l'homme répondit, la femme? Donc déjà, première chose, c'est pas moi, c'est la femme. La femme que tu as mise auprès de moi, c'est même pas ma femme. On est d'accord, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Elle m'en a donné. On est dans Genèse 3. Et j'en ai mangé. Très belle réponse, n'est-ce pas? J'ai pas les olives. Eh, j'ai jamais demandé de femme. Relisez Genèse. Adam n'a pas demandé de femme. Dieu lui a donné une femme.
D'accord.
Mais, c'est cette femme qui l'a fait pécher. En faisant ça, on rend Dieu coupable de notre propre désobéissance. Et ça, on le fait très souvent parce que, sans dire directement « Dieu, c'est ta faute », on va dire « Dieu, les circonstances ont fait que... » Mais qui place les circonstances? Qui permet les circonstances? Et on pourrait dire « Dieu, c'est toi qui m'as créé, donc si je fais des choses mauvaises, t'es un peu responsable. » On a de nombreux discours comme ça dans le monde, n'est-ce pas? Et on a tendance à accuser facilement tout ce qui nous entoure. Adam n'a pas tort, c'est la femme qui lui a dit « Viens, goûte ». Mais où est sa propre responsabilité? Est-ce qu'en tant qu'homme, il n'aurait pas dû dire « Non, Dieu nous a interdit ». Est-ce qu'il n'aurait pas dû être présent déjà avant, quand le serpent était là, pour dire à sa femme « Non ». Où était-il à ce moment-là? On a d'autres exemples dans la parole. Je vais citer dans 1 Samuel 13, Saül, par exemple, qui offre un sacrifice parce que Samuel tarde. Péché grave. Il a touché au sacré. Il n'est pas de la famille des Lévites, c'est pas son rôle. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Mais quand Samuel arrive, il lui dit bien, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, et voilà comment ça démarre. Déjà, c'est le peuple qui s'éloigne, les ennemis sont là, et toi, tu tardais. C'est un peu ta faute, quand même. Et encore une fois, les circonstances font que on arrive à excuser notre propre faute. Et il continue même, pire, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Oh, quel personnage pieux, n'est-ce pas, que ce Saül. C'est alors que je me suis fait violence. Ah, oh, bravo. Et que j'ai offert l'Holocauste. J'ai désobéi, mais ça m'a coûté quand même de désobéir. Et c'était pour implorer l'Éternel. Mais c'est pas un projet louable. Tout comme une autre fois, il va ramener du butin d'une attaque où Dieu lui avait dit de tout détruire, de tout dévouer par interdit. Il va dire, mais n'est-ce pas pour offrir des sacrifices? Avec un raisonnement comme ça, je me dis, si dans la semaine je vole tout ce que je peux et je le mets dans l'offrande le dimanche matin, l'Église s'enrichit, n'est-ce pas? Saül est coupable d'un fait grave. J'en veux pour preuve la mort d'Ouza quand il a posé la main sur l'arche. Il n'était pas lévite, c'était pas à lui de toucher l'arche, il est mort sur le coup. Dans le peuple, tout le monde savait que dans le temple notamment, il y avait des endroits qui étaient accessibles uniquement aux lévites. Pire encore, le Saint-Destin n'était accessible qu'à un lévite particulier et pas n'importe quand. On ne rigole pas avec la sainteté de Dieu. On ne joue pas avec le sacré. Ce qu'il a fait comme ça, un peu par crainte de voir le peuple s'éparpiller, par crainte de voir la défaite devant lui, c'était grave. Mais sa réponse nous montre quoi? On juge Saül très facilement, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est pas notre réflexe aussi à chaque fois? Oui, mais les circonstances ont fait que... Qu'est-ce que se serait-il passé si le peuple se dispersait? Est-ce que Gédéon n'a pas vaincu? Et c'est avant Saül, bien sûr, avec seulement 300 hommes. Est-ce que le nombre importait? Si Dieu était là, peu importe, au final, le retard de Samuel ou le nombre d'hommes qui se sont enfuis. Et on agit ainsi très souvent, comme Abraham qui, par exemple, n'a pas attendu suffisamment l'enfant de la promesse et a été vers sa servante en écoutant sa femme. On trouve parfois que Dieu tarde, n'est-ce pas? On trouve que Dieu tarde à agir. Et du coup, on met en place des stratagèmes humains. Et quand Dieu vient nous dire « Mais c'était pas mon plan », On lui dit, mais tu tardes, Seigneur, alors je fais. Au moins, je fais quelque chose, n'est-ce pas? Je me fais violence. On a cette tendance, même entre chrétiens, à accuser Dieu pour les fautes que nous pouvons commettre. Dans le monde, on entend ça tellement souvent. Dieu se retrouve responsable de tout. S'il n'existe pas, c'est réglé. Et s'il existe, c'est lui qui a tous les torts. Mais même dans nos bouches, dans nos raisonnements, on trouve parfois des traces de cela. Si un jour je me dispute avec ma femme, est-ce que je vais aller... Ça peut arriver. Est-ce que je vais aller dire à Dieu, mais c'est toi qui m'as choisi cette femme, non? Tu me connais bien pourtant, tu la connais bien. Si tu nous as mis ensemble à un moment donné, tu aurais dû savoir que ça allait arriver. Est-ce que je vais blâmer Dieu? Eh bien, en effet, je pourrais le faire. Mais non. Merci Seigneur pour cette femme qu'il m'a donnée. Mais on peut transformer chaque bénédiction que Dieu nous donne, n'est-ce pas, en malédiction. Dieu m'a donné un travail. Et le matin, quand je me lève, est-ce que je loue Dieu pour ce travail ou est-ce que je me dis « Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'heures quand même, hein, beaucoup de trucs à faire. » N'est-ce pas? Dieu nous a donné une famille, des enfants merveilleux par exemple, mais quand il y en a un qui pleure la nuit, est-ce qu'à ce moment-là, vous dites « Merci Seigneur. » Allez, vas-y, c'est ton tour. Évidemment, je peux tourner en malédiction toutes les bénédictions que Dieu m'a données. Et c'est ce que le monde essaie de faire, le diable dans le jardin d'Éden, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de transformer le discours de Dieu, d'en faire autre chose, pour que d'un interdit, ça en devienne presque le but ultime. On peut devenir comme Dieu. Super. Si je reprends la petite histoire du début de cet homme qui s'en prend à son diététicien, le diététicien lui dit, mais avez-vous suivi ce que je vous ai prescrit? Et là, l'homme réfléchit et se dit, non, le médecin n'est pas coupable. Il y a un coupable bien plus évident et bien plus facile à trouver, n'est-ce pas? Qui est le coupable? Ben non, c'est pas lui. Je vais faire un procès aux fabricants de soda qui mettent trop de sucre dans leurs boissons. Regardez toutes les publicités qu'on nous met. On peut pas faire 10 mètres dans la rue sans voir un hamburger en énorme, dégoulinant de fromage. Non? On va avoir des publicités aguichantes, des images dans tous les sens, n'est-ce pas? C'est eux le coupable. Est-ce que le coupable idéal, ça n'est pas le diable, au final? Ah oui, j'ai péché, mais c'est la faute du diable. N'est-ce pas? C'est ce que va répondre Ève. Adam a dit, c'est ma femme, la femme que tu m'as donnée. Et Ève va dire quoi? L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est le coupable idéal. Ça rappelle un peu les procès de Nuremberg, n'est-ce pas? À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un coupable idéal. Oui, j'ai massacré des millions. Mais c'est Hitler. C'était un ordre. Et puis si je l'avais pas fait, d'autres l'auraient fait. Et puis si je l'avais pas fait, il y aurait eu des représailles contre moi. N'est-ce pas? Tous ont, un par un, rejeté la faute sur leur supérieur jusqu'à arriver à Hitler, qui était déjà mort, donc c'était très pratique. Et aujourd'hui encore, Hitler est considéré pour beaucoup comme la pire personne ayant jamais existé sur Terre. C'est tellement facile d'accuser le diable ou d'accuser ses démons, n'est-ce pas? Je me rappelle d'un temps où j'étais jeune en région parisienne et j'avais rencontré quelqu'un qui, maintenant j'appellerais plus ça un gourou qu'un prédicateur, qui passait dans les églises et comme ça faisait des prédications et qui m'avait expliqué que si quelqu'un était beau dans une église, c'est qu'il avait un démon et que sa beauté était là pour détourner l'attention de ceux qui assistaient. Si quelqu'un chantait bien dans une église, c'était qu'il avait un démon et que sa belle voix était là pour détourner les gens du contenu des paroles, etc. Et plus je l'écoutais, plus je me rendais compte que chaque chose sur terre était derrière contrôlée par un démon. Alors, je ne nie pas du tout l'existence des démons. La Bible nous en parle. Jésus nous l'a bien montré, il en a sauvé plus d'un. Mais quand on voit des démoniaques dans le Nouveau Testament et quand on commence à écouter ce genre de discours, on sent quand même qu'il y a une petite différence entre les deux. Et qu'encore une fois, c'est très facile de venir dire « Certes, je fais telle ou telle bêtise, mais c'est un démon qui agit à ma place. » N'est-ce pas? On peut tellement facilement accuser le diable, accuser ses démons. Mais est-ce que le diable nous fait pécher? Qu'a fait le diable dans le jardin d'Éden? Ou qu'a fait le diable dans le cœur de Saül? Qu'a fait le diable dans le cœur de Caïn? Est-ce que le diable a mis la pierre dans la main de Caïn pour qu'il tue son frère? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme le disait plus tôt, le diable ne nous fait pas pécher. Il nous incite. Il nous pousse. Il essaie de nous faire tomber. Mais ce n'est pas lui qui nous fait pécher directement. Jésus a été tenté, n'est-ce pas? Et il n'a pas succombé. Alors on pourrait se dire, oui, c'est normal, c'était Jésus, mais nous? On peut voir le diable comme le coupable idéal, et en effet, le diable est coupable de nombreuses choses. La Bible le dit bien clairement, et il aura sa sanction comme beaucoup d'autres. Mais la Bible nous dit aussi que nous sommes responsables. À la fin de cette histoire de la chute, Dieu n'a pas puni que le diable. Il a rendu à chacun sa responsabilité. L'homme était responsable, il a eu sa part. La femme était responsable, elle a eu sa part. Le serpent était responsable, il a eu sa part. Dieu est juste. Le diable dans le jardin d'Éden transforme le discours de Dieu, pousse au péché, tente. Quand il tente Jésus, il va vers un homme affamé par un jeûne long, il va lui proposer de la nourriture, n'est-ce pas? Là, il propose la seule chose que Adam et Ève n'ont pas. Ils sont heureux, ils ont tout ce qu'il leur faut. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils ne sont pas Dieu. Le diable est à l'œuvre. Les démons aussi. Mais Dieu nous dit quoi dans sa parole? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est dans 1 Pierre 5,8. Il y a d'autres versets, j'en citerai d'autres aussi. Mais on a un adversaire, oui, qui rôde et qui cherche à dévorer. Si vous regardez des documentaires animaliers, qui se fait dévorer par le lion, ou par la lionne souvent d'ailleurs? Est-ce que le lion vient en plein troupeau s'attaquer à l'animal le plus fort du groupe? Non. Le lion va se mettre dans les hautes herbes, se cacher, se dissimuler, rôder autour, comme le verset nous le dit. Dès qu'il y en a un qui va être un petit peu ou jeune, ou vieux, ou malade, ou un peu éloigné du reste du troupeau, il va s'empresser d'aller dessus. Avertissement, n'est-ce pas? Que nous n'avons pas à prendre à la légère pour nous. Évidemment, si je m'éloigne un peu de Dieu, si je m'isole, je me rends vulnérable. Si je reprends, quand le diable parle à Ève, on a l'impression que Dieu n'est pas là, et on a l'impression qu'Adam n'est pas là non plus. Et c'est plus facile, n'est-ce pas? Mais la Bible nous donne d'autres informations aussi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ah. Est-ce que le diable vient? Oui, mais qui lui donne accès? C'est nous. Comme dans ce verset d'Apocalypse qu'on connaît bien, voici, je me tiens à la porte et je frappe. On a ce libre arbitre qui je laisse entrer. À qui je donne accès? Alors après avoir accusé Dieu, après avoir accusé le diable, dans une troisième partie, qui est vraiment responsable? Évidemment, nous sommes responsables de nos fautes. On peut blâmer qui on veut. On peut blâmer Adam et Ève, hein, c'est facile. c'est leur faute, s'ils n'avaient pas chuté, blablabla. Et on peut remonter toute la parole comme ça et blâmer tous ceux qu'on voit, les uns après les autres. On peut blâmer les circonstances, la société actuelle, n'est-ce pas, qui nous entoure et qui nous pousse tellement dans certaines directions. Je peux me trouver des excuses pour quasiment tout. Mais la troisième partie n'est pas, de mon message n'est pas une partie fataliste en disant « Nous sommes pécheurs, c'est notre faute, nous sommes tous coupables. » Certes, c'est vrai, et nous le savons. Mais la Bible ne nous enseigne pas que juste nous sommes coupables. Que c'est fini, nous avons perdu le combat. La Bible nous enseigne que nous pouvons résister. Dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors si on parle d'un lion, si là physiquement je résiste face à un lion, j'ai pas beaucoup de chance qu'il se mette à fuir loin de moi. Mais encore une fois, la Bible nous dit bien clairement que Dieu nous a donné la victoire. Dieu nous permet de résister au diable. Dieu nous permet de faire fuir le diable. Dans Genèse, déjà, il disait à Caïn, « Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. » On retrouve hein, cette histoire de porte et d'accès qu'on donne ou pas. « Mais toi, domine sur lui. » Plus tard dans la Bible, dans 1 Corinthiens 10, on lit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Alors on peut accuser en effet le diable et toutes ses tentatives, mais la parole nous dit bien clairement que nous ne sommes pas appelés à subir cela avec un fatalisme et avec, j'imagine certainement, un esprit un peu déprimé. Dieu nous appelle à quoi ? À résister. Et il nous encourage en disant que ça ne sera pas au-dessus de vos forces, qu'avec la tentation, je vous donnerai le moyen de la supporter. Quand on lit les lettres aux églises, dans Apocalypse 2 et 3, on lit à chaque fois ces phrases « à celui qui vaincra ». Dieu nous appelle non pas à être défaitiste et à la défaite, mais nous appelle à la victoire. Alors encore une fois, comment avoir la victoire? Est-ce que par mes propres forces, je vais réussir à faire fuir le diable à chaque fois, à chaque occasion, à chaque tentation? Est-ce que cet homme va pouvoir, à chaque fois qu'il croise la moindre publicité, vite détourner le regard et s'en éloigner? Est-ce qu'il va pouvoir se faire violence et tout seul suivre, sans aide, un régime drastique? Non, la Bible nous dit bien que, comme tout à l'heure on le lisait, on a un chef suprême à l'Église, n'est-ce pas? Église qui est un corps. Et nous sommes appelés à marcher tous ensemble. Je vais vous lire dans 1 Jean 1. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Déjà, évidemment, il ne s'agit pas de dire ce matin, je suis chrétien, je suis dans la lumière, donc je ne pêche pas. Non. Mais la suite, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Nous ne sommes pas appelés à mentir, à trouver des excuses, à nier notre péché. Nous sommes appelés à le confesser devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment la parole peut dire « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » Et quand on regarde autour de nous, vous avez l'impression que tout concourt au bien? Non. Comment la guerre peut concourir au bien? Comment la maladie, la souffrance, le deuil? Comment toutes ces choses pourraient concourir au bien de ceux qui aiment Dieu? bien, au final, c'est quelque chose qu'on essaie de faire avec ma femme. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, est-ce que vous arrivez à dire merci quand il vous arrive quelque chose de négatif? Merci Seigneur pour telle épreuve. Comme je disais, on a tendance à un peu tout transformer en malédiction. Et si mon fils se réveille en pleine nuit, bah merci Seigneur déjà parce que j'ai un fils, hein, n'est-ce pas? Combien de personnes n'en ont pas et aimeraient en avoir? Quand on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que même les choses mauvaises qui m'arrivent, au final, c'est un moyen pour moi de m'approcher de Dieu. Comme on le disait aussi tout à l'heure, c'est quand je suis faible, n'est-ce pas, que je suis fort. Si au final je n'avais aucun moment de faiblesse dans ma vie, aucune tentation, aucune épreuve d'aucune sorte, quelle relation j'aurais avec Dieu? Est-ce que même j'aurais besoin de Dieu? Si le fils prodigue qui avait quitté son père avait réussi à faire fortune, à faire fructifier son argent, etc., serait-il retourné vers son père un jour? Peut-être un jour serait-il retourné pour lui montrer à quel point il avait réussi, mais serait-il retourné dans le même état d'esprit? Quand on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que même les événements qui peuvent paraître négatifs, au final, servent à nous rapprocher de Dieu. On peut penser à cet aveugle né de naissance et à cette question qu'on posait en disant « Qui a péché, lui ou ses parents ?» Qu'est-ce qu'on a répondu à cette question? Je peux regarder mes enfants et regarder les défauts et dire « Est-ce que je suis responsable de leurs défauts? Est-ce que c'est ma faute de parents? Ou bien c'est leur faute? C'est leur défaut? Moi, je les ai enseignés après à eux de faire. » Non, si cet aveugle était né de naissance, c'était pour quel but? Vous vous souvenez de l'histoire? C'était afin de manifester la gloire de Dieu. Parce qu'en effet, sans maladie, pas de guérison miraculeuse. Alors si on regarde notre société, notre terre, si on regarde autour de nous, on peut accuser qui on veut, mais on est bien conscient que l'homme est responsable de tout. On peut accuser le médecin, n'est-ce pas? Ça marche pas bien. On peut accuser toutes les circonstances environnantes, mais quelque part, ce serait faire ce que je lisais dans 1 Jean plus tôt et dire que quelque part, c'est pas nous qui péchons, et nous serions menteurs devant Dieu. Pire, nous le ferions menteur. Alors on doit reconnaître et confesser nos péchés devant lui. Mais il s'agit pas, encore une fois, d'un message fataliste. Comme on l'a lu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous ne confessons pas nos péchés, si nous ne reconnaissons pas notre faute, si nous la remettons sur tous ceux qui nous entourent, sur tout le reste, quelque part on empêche Dieu de nous pardonner. On se prive de la grâce. La Bible nous dit encore, dans 1 Jean, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Si je m'annonce défaitiste, je me dis « mais je n'arriverai pas dans telle ou telle situation, je ne résisterai pas à ci ou à ça », eh bien, encore une fois, je fais mentir Dieu. Celui qui l'a placé en nous est plus grand. Et c'est aussi pour ça que le diable va fuir. Pas parce que nous lui faisons peur, mais parce qu'en nous avons celui qui l'a déjà vaincu. Si je vous lis un autre passage, dans Luc 10, Dieu avait envoyé des disciples en mission qui reviennent. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. Ailleurs, on nous dit bien sûr que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, n'est-ce pas? Ne nous trompons pas de combat et ne nous trompons pas de joie. Au final, Dieu nous donne le pouvoir de résister au diable. Dieu place en nous son Saint-Esprit qui est plus fort, évidemment, que celui qui est dans le monde. Dieu, encore une fois, quand il nous parle de tentation, il nous dit qu'il nous donnera aussi le moyen d'en sortir et le moyen de la supporter. Dieu nous encourage dans tous ces domaines à avoir la victoire. Comment pouvons-nous donc, après, en tant que chrétiens, nous annoncer défaitistes, après avoir lu toutes ces magnifiques promesses? Comment regarder le monde avec un regard pessimiste en vous disant « tout va mal ». Voilà, on avait le Covid, le prix de l'essence qui explose, à la guerre, qui va peut-être même se ramener chez nous un jour. Et à chaque fois, c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et on peut voir tout ce qui nous entoure comme une succession de malédictions ou comme une victoire de l'ennemi. Ou bien on peut se dire « merci Seigneur ». Merci Seigneur pour ces maladies, parce que tu permets aussi des guérisons miraculeuses. Peut-être certains ont dû se tourner vers Dieu dans ces moments-là, n'est-ce pas? Merci Seigneur pour ce que tu permets. Merci parce que, en effet, on peut observer des choses qui nous paraissent terribles autour de nous. Et dans toutes ces histoires-là, est-ce que nous n'entendons pas parler aussi parfois de miracles? D'histoires extraordinaires, d'ennemis qui se tombent dans les bras, etc. Je peux regarder des tas de films sur la Seconde Guerre mondiale et voir à quel point les Allemands étaient horribles. Et je peux lire parfois des témoignages de chrétiens qui ont vécu à cette époque, ont été sauvés par le peuple allemand. Alors en effet, nous décidons, parce que dans la Genèse, Dieu nous a donné le libre arbitre, à Adam et Ève déjà premièrement, puis à nous par la suite. Et Dieu nous a donné le choix à qui je donne accès. Je contrôle la porte de mon cœur. Est-ce que je laisse entrer Dieu qui frappe et qui souhaite entrer et être avec moi? Est-ce que je laisse l'accès au diable? Tout ce que je peux vous laisser ce matin, mes frères et sœurs, c'est des notes réjouissantes. Nous avons la victoire. Nous pouvons résister. Le diable fuira loin de nous. Mais nous allons nous priver de tout cela si on ne se considère pas parfois coupable de ce que nous faisons. On va se priver de la grâce si on préfère accuser Dieu pour les fautes qu'on commet, si on préfère accuser le diable, si on préfère accuser notre prochain. La Bible nous dit bien, si vous confessez vos péchés, alors devant Dieu, soyons honnêtes, reconnaissons, demandons pardon et acceptons sa grâce. Acceptons son Saint-Esprit en nous, laissons-le entrer. Et dans ces cas-là, on pourra vraiment faire nôtre ce verset bien connu de Romains 8, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais terminer par la prière. Merci Seigneur, en effet. Parce que même si on ne le voit pas toujours, on ne le voit pas tout de suite, tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous environne, concourt à ton plan parfait. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance, mais tu nous as annoncé. Et nous savons déjà que tu as la victoire, nous savons que tu vas revenir. Nous savons toutes ces belles promesses que tu nous fais. Je voudrais te demander de nous aider ce matin, Seigneur, à les faire nôtres, à ne pas les lire simplement dans la parole sans les mettre en pratique, à changer notre quotidien, à changer notre regard, qui est bien souvent négatif sur tout ce qui nous entoure, et à y voir toute la multitude de bénédictions que tu as à notre encontre. Merci encore une fois pour ces versets. Merci pour tes encouragements au quotidien. Et merci parce que nous savons que si le monde va mal, si l'ennemi a des victoires sur terre, nous savons qu'il n'aura pas la victoire finale. Et nous savons qu'un jour il paiera aussi pour tout ce qu'il a commis. Merci parce que tu es un Dieu juste et que dans ta justice, tu nous as permis d'être purifiés et d'être pardonnés. Aide-nous à propager cette bonne nouvelle. Et qu'au milieu de toutes ces voix négatives et pessimistes que nous entendons tout autour de nous au niveau de toutes les plaintes que nous pouvons entendre, nous arrivions à avoir un discours autre et différent et à annoncer ta bonne nouvelle, à annoncer la joie que tu mets en nous, la joie d'être pardonné, d'être purifié par ton sacrifice. Merci Seigneur. Amen.